Et sur Terre.
Et en fait, c'est des invités sur Terre. Oui, vous avez bien compris, hein, donc les pieds dans la Lune s'ouvrent à l'international, mais on s'ouvre aussi à la culture universelle. Alors aujourd'hui, comme vous le savez, hein, depuis Pierre Corneille et le CID, la valeur n'attend pas le nombre des années. Donc Mélie Meynier, Karl Espinasse, vous avez de nombreux talents et des activités multiples, ensemble et séparément, déjà professionnelles, et tournées vers la musique et la voix. Bonjour, soyez les bienvenus dans cette émission et où vous l'avez compris, nous aimons tellement les jeunes, surtout moi en fait. Donc Mélie, on va commencer par vous, parce que voilà, on ne parlera pas à Karl. Est-ce que vous pouvez un peu nous dresser en fait votre parcours pour en être déjà là en fait, aussi jeune, et puis après j'arrêterai avec les histoires d'âge parce que je sais que ça vous énerve et vous avez raison, pour en être dans ce parcours déjà un petit peu professionnel, quel parcours, quel cursus vous avez suivi?
Bonjour. Alors, j'ai un parcours un peu décousu, pour le coup, parce que j'ai commencé la musique toute petite, comme Karl, au conservatoire, ici à Rouen. Puis après environ 12-13 ans de musique, j'ai totalement arrêté. J'ai fait des études plutôt classiques, une licence de droit, et après j'ai fait un master en management culturel. Toujours à Lyon, du coup. Et je suis revenue à Rouen il y a 3-4 ans pour reprendre le conservatoire, donc la musique classique, où je suis encore actuellement en études en chant lyrique, du coup. Mais j'ai jamais arrêté la musique pour autant dans tout ce qui est plutôt musique actuelle. Donc voilà, j'ai appris la guitare, je fais un peu de piano, je compose. Donc voilà, j'ai pas mal de projets aussi à ce niveau-là. Donc le but, c'est de concilier un peu tout ça. Et voilà.
Et Karl, donc, parce que alors chef de chœur, flûtiste, chanteur, comment on en arrive là?
C'est vrai que ça demande pas mal de travail. Et parfois, on se pose des questions quant à l'investissement qu'on donne à l'art en général. Et puis par rapport à cette question de l'âge, c'est vrai que nous, on n'a pas encore notre carte vermeille, comme toi, Benoît, on n'a pas cette chance-là. Mais c'est vrai qu'il nous reste en fait aussi énormément de choses à apprendre en art, et c'est ça qui fait avancer, qui donne l'appétit en fait d'avancer. Et c'est peut-être pour ça qu'il y a, sur le papier, en tout cas ce que tu as couché sur le papier, donne l'impression de pléthore de choses, alors qu'en fait, ça rentre dans une vie humaine sans problème. Donc, comme Mélie, j'ai commencé au conservatoire de Rouen par la flûte. J'ai eu deux professeurs superbes que je veux saluer aussi par là, Sophie Lecacheur et Jean-Christophe Alala, qui m'ont beaucoup apporté et qui m'apportent toujours d'ailleurs. Ensuite, je suis entré au Conservatoire de Paris et puis ensuite au CNSM dans d'autres disciplines, ce qu'on appelle les disciplines d'érudition, c'est l'écriture, l'analyse, donc la composition en gros, pour faire simple, à la manière d'eux. Et c'est étudier aussi l'histoire de la musique et tous ses tenants et aboutissants. Voilà. Et donc parallèlement à Rouen, j'ai eu la chance de monter ce chœur là, dont on va parler, je crois.
Et aujourd'hui, vous êtes encore en études?
Oui, tout à fait. J'étudie toujours. Alors, je fais les allers-retours entre Rouen et Paris. Et normalement, ces études prennent fin dans un an et demi.
On peut le dire, au Conservatoire supérieur de...
Oui, c'est ça, ouais, au CNSM.
De Paris. Alors, si j'ai bien compris, quand même, vous avez des appétences un tout petit peu différentes. Hein. J'ai pu, parce que comme je fais très très bien mon travail, assister au concert de Mélie hier, où on était quand même plus au niveau guitare dans la référence Jimi Hendrix que Monsieur de Sainte-Colombe, enfin il m'a semblé en tout cas, pas seulement au niveau des boissons qui étaient servies dans le lieu. Et puis bon, Karl, de ce que j'ai pu un peu comprendre quand même, les inspirations sont plutôt assez classiques, donc voire très très classiques. Bon, non, peut-être on
c'est vrai que je m'approche plus du vieux con que Mélie.
Non, j'ai pas dit ça. Je n'ai pas dit ça.
Et donc, les plus jeunes.
La question qui brûle toutes les lèvres, comment vous vous êtes rencontrés en fait?
Eh ben, grâce au cœur.
Peut-être pas de la même manière, hein, donc vous allez répondre tous les deux, vous n'êtes peut-être pas rencontrés de la même manière en fait.
Oui. Bon, c'est vrai que c'était une proposition en fait de Margot Messler qui est professeur au conservatoire de Rouen et qui m'a dit ah ça serait super rencontre Mélie, ça serait très chouette. Et donc on s'est connus avec l'ensemble vocal de Rouen et puis au fur et à mesure une amitié s'est liée et puis on s'est dit bah ça serait pas mal si tous ces chanteurs qui veulent en faire ce métier là qu'on se réunisse autour d'un projet commun tout simplement. Enfin, en tout cas, c'est comme ça que moi j'ai rencontré Mélie pour ce projet.
Exactement pareil.
Pareil. Alors peut-être vous pouvez quand même nous dire un petit mot sur cette histoire de l'ensemble vocal de Rouen, parce que c'est pas tout à fait inintéressant. C'est-à-dire que moi j'ai eu l'occasion aussi de vous entendre. C'était un ensemble qui était attaché au conservatoire et en fait, à un moment, il n'y avait plus de direction de chœur, en fait. C'est un peu ça qui s'est passé, non ?
C'est un peu ça qui s'est passé. En tous les cas, c'est vrai que à un certain moment de la vie de cet ensemble, j'ai dû partir du conservatoire et donc j'ai fait la proposition à ceux qui le souhaitaient de me suivre dans une autre structure. Donc au lieu de ensemble vocal du conservatoire de Rouen, on a enlevé la particule et c'est devenu ensemble vocal de Rouen. Ce qui change absolument tout. Mais voilà. Et donc en fait 100% du cœur est resté soudé et on a pu continuer nos projets suite à ce voyage au Brésil de l'année dernière.
On va en parler peut-être un petit peu. Alors, juste avant d'aborder la question des voix illuminées, ce nom qui fait un peu rêver et sur lequel vous êtes en travail commun, peut-être un peu parler de vos carrières un petit peu communes, enfin séparées, je ne sais pas si on peut parler de carrière. Donc, Mélie, si j'ai bien compris quand même, et vous avez un compte Instagram qui est moultement doté, hein, voilà. Le maire de Rouen faisait aussi beaucoup d'interventions guitare sur son compte Instagram, mais il a beaucoup moins de followers. Hein, donc vous avez une démarche, une appréhension, enfin une perspective en fait de vous inscrire dans une démarche artistique particulière sur la musique actuelle, plus sur les musiques actuelles, on va dire, et sur la guitare.
Ouais, en fait, c'est un peu parti de rien, où simplement j'ai commencé à jouer de la guitare électrique et pour mesurer un peu mes progrès, je prenais des vidéos. Et après, j'ai commencé à les poster, et puis ça a pris beaucoup, notamment grâce à plein de vieux cons, je dirais, parce que beaucoup de reprises de groupes tels Pink Floyd, par exemple, que j'affectionne tout particulièrement. Donc c'est ça qui a un peu lancé le compte Instagram, et puis après, j'ai aussi décliné sur YouTube, où j'ai fait des formats plus longs, des reprises entières, où j'ai plus... voilà, fait de la guitare et aussi du chant, où j'ai allié un peu les deux. Et du coup, oui, ça marche plutôt bien. Ça m'amène à travailler avec des marques de guitare ou de matériel de musique. Et du coup, c'est très sympa.
Alors, vous pouvez tous aller consulter le compte Instagram. Hein, vous pouvez redonner le nom du compte Instagram.
Le compte, c'est Songs of Mélie.
Songs of Mélie, tout attaché. Et il y a déjà une chanson enregistrée, en fait, qu'on peut trouver sur les plateformes.
Oui. Elle s'appelle Should Be Fine. Elle est dispo sur toutes les plateformes sous mon nom, donc juste Mélie, M-E-L-I. Et il y en aura d'autres très bientôt, j'espère.
Donc Karl, par contre, c'est plutôt une carrière... Alors là, je parle encore une fois de cette carrière individuelle, hein, avant qu'on ne parle de la carrière collective, d'instrumentiste. En fait, moi, je vous ai entendu jouer du Mozart, justement, hein, entre autres, enfin, à la flûte. Est-ce que c'est une carrière d'instrumentiste ou chef de chœur ou chanteur ou la carrière individuelle, c'est plutôt, en fait, la perspective musicale ?
Oui, c'est plus une grande perspective musicale. Plus global, alors chanteur non, c'est plus chanteur de circonstances dans mon cas, mais sinon oui pour la flûte et la direction c'est ce vers quoi je tends particulièrement, voilà, donc des concerts à l'année, des rencontres, des voyages, des plein de choses.
Alors donc vous avez créé toute fin de l'année dernière en fait, hein, voilà, vous avez créé un ensemble qui s'appelle les Voix Illuminées, voilà. Donc est-ce que vous pouvez un peu nous décrire le concept, l'idée? Si j'ai bien compris, en fait, c'est quand même la volonté de créer un ensemble professionnel de chanteurs, ce qui est quand même très osé, hein, dans cette perspective, enfin dans cet environnement culturel où l'argent ne coule pas à flot pour la culture. Donc qu'est-ce que c'est que les Voix Illuminées?
Et ben, comme Karl l'a dit tout à l'heure, c'était l'occasion de regrouper notamment des jeunes chanteurs qui veulent en faire leur métier et de pouvoir se regrouper autour d'un projet commun qui nous parle à tous et autour de répertoires aussi divers et variés. Donc voilà, c'était l'occasion d'essayer de professionnaliser tout ça. et d'explorer aussi même le territoire pour chanter à droite à gauche et puis rencontrer des personnes. Et...
Donc concrètement, vous avez créé une association, ouais. Vous avez déposé des statuts, vous regroupez des chanteurs que vous rémunérez, en fait, hein, parce que c'est ça, la professionnalisation.
Tout est professionnel. Après, je crois que c'était le bon créneau aussi à prendre, parce que, comme tu le soulignes, Benoît, c'est un peu compliqué pour la culture en ce moment en France. Contrairement à certains voisins et amis européens, étrangers, pas tous, hein, mais certains pour qui c'est plus simple. Et donc, l'union fait la force. Là, on s'est dit, il y a un vivier qui est prêt à chanter, bah, autant l'exploiter avant que tout ça se disperse et que finalement, on puisse peut-être jamais le faire. Donc, c'était vraiment l'occasion et le bon timing, je pense, pour monter tout ça. En plus de l'envie, bien sûr, qui était sous-jacente qui était très importante depuis un certain temps maintenant. Mais c'était aussi je pense, le bon timing pour faire ça dans ces conditions-là.
Et alors, du coup, ça concerne combien de chanteurs ? Est-ce que c'est une forme définitive ou est-ce que c'est des formes variées, en fait ?
C'est 16 chanteurs, donc c'est un chœur de chambre augmenté, on va dire. Et il y a toutes les déclinaisons possibles entre le quintet vocal jusqu'aux 16 chanteurs. Donc pour aborder en fait tous les répertoires de musique, il faut qu'on puisse avoir ces différentes formations. Ça va du madrigal de Monteverdi à 5 voix pures, strictes, jusque, je sais pas moi, Poulenc ou les qu'on va donner là cette année. Mais les grandes formations du 20e et du 21e siècle. Donc avec cette formation-là, cette grande formation qui se décline, on peut donner à peu près tout le répertoire du chant choral dans sa périodicité.
Oui, j'ai vu d'ailleurs que de ce point de vue-là, vos influences sont quand même très 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 mondiales, en fait, hein, puisque vous avez tous des répertoires aussi de musique du Nord. Enfin bon, c'est comment vous cherchez vos inspirations. J'ai entendu que vous aviez fait un voyage.
C'est des
voyages d'inspiration.
C'est des voyages d'inspiration et surtout de vie ensemble.
C'était au Brésil, c'est ça ?
C'était au Brésil, oui. Ça, c'était avec l'ensemble vocal de Rouen. Et c'était un très très chouette moment parce qu'on a pu vraiment partager un bout de culture brésilienne avec des gens qui nous ont accueillis incroyablement, qui ont été incroyables tout simplement, et qui nous ont offert des moments musicaux, humains, qui nous ont fait jouer à l'Opéra de Rio, des trucs assez inattendus pour nous qui débarquions là-bas, c'était inespéré un petit peu. Et en plus de ça, ils nous ont vraiment fait découvrir tout un pan de leur culture, surtout musicale bien sûr, mais c'était un beau moment de partage. Donc ça fait partie des inspirations qu'on peut avoir.
Et donc Mélie, Jimi Hendrix et Monteverdi, ça colle ?
Ça cohabite.
Ça cohabite bien ?
Non, j'ai pas... Moi, ce qui m'intéresse de façon générale, c'est la musique et je hiérarchise pas trop dans ce que je fais. Donc, je suis autant attachée au classique, à mes études en chant lyrique, que j'ai pas du tout envie d'abandonner, même si la musique actuelle prend parfois le pas. Donc, c'est vraiment, j'ai envie de tout faire, enfin, dans la mesure du réalisable et de faire les choses bien. Donc, voilà.
Alors concrètement, comment ça se passe en fait ? Où est-ce qu'on peut vous retrouver, vous entendre ? Comment vous proposez en fait des concerts ? Vous les auto-organisez ?
Oui. On propose des concerts. Alors parfois, on en est les organisateurs, pas tout le temps, mais ça peut arriver. Et on collabore régulièrement. En fait, le nom Voix Illuminée vient de la collaboration avec la Maison Illuminée.
Ah, une belle collaboration.
Que tu connais peut-être, Benoît. Un peu. Et donc, on est amené à collaborer régulièrement ensemble. Et donc, dans ces cas-là, la Maison Illuminée organise ses concerts. Donc, on peut se retrouver très fréquemment ensemble. Enfin, le public pourra nous retrouver fréquemment ensemble. Et puis sinon, on a quelques dates aussi de notre côté. Puisque
vous avez peut-être des dates là, à nous annoncer
déjà. De structures indépendantes. Et donc, il y a aussi du chant a cappella, parfois. Et voilà les dates de cette année.
Alors, avec la Maison Illuminée, on a le 17 septembre prochain une redite de chant de nuit qu'on a fait le 30 mai dernier. Avec la Maison Illuminée, on a le Stabat Mater qu'on avait aussi fait cette année en février. Et là, on le refait le 14 novembre à Elbeuf. Et puis sinon, tu parlais de Poulenc tout à l'heure, on a un programme le 18 septembre au Musée des Beaux-Arts, donc de Poulenc, sécheresse de Poulenc. Et nous avons le 31 octobre, on va faire des motets allemands au Temple Saint-Éloi. Et puis il y aura également deux concerts de Noël le 3 et le 10 décembre.
D'accord. Donc, tout ça, on peut le retrouver sur, sur un site, sur non,
alors,
Instagram, qui va paraître, ouais, qui va paraître très bientôt.
En cours de création, mais sinon on est présent sur les sur les réseaux sociaux justement. Donc on a le compte Instagram Les Voix Illuminées.
Ouais. Tout ça va paraître, parce que c'est vrai que cette structure-là, en gros, a moins d'un an, et l'ensemble en lui-même a 6 mois à peine. Mm-hmm. Donc c'est déjà tendu d'avoir tout, mis bout à bout tout ça, et donc le site arrive.
Voilà. Mais vous avez aussi des concerts où vous êtes, vous, chanteur, il n'y en a pas un demain, par exemple, non?
Alors ça, c'est avec l'ensemble vocal de Rouen.
Oui, mais
demain,
bon,
oui, complètement.
On peut vous entendre chanter tous les deux.
Voilà. Tout à fait. Oui, oui.
Et c'est où donc?
Demain à Rye, à l'église de Rye, là où a été tourné le fameux film sur Emma Bovary. Et puis le lendemain au Ménilénard, à l'église Saint-Jean Bosco.
Voilà, moi je vous invite tous à vous y rendre, parce voilà. qu'en fait d'abord dans les églises il fait un tout petit peu plus frais qu'ailleurs, bon voilà, ça c'est une première raison, et puis c'est toujours des très très beaux programmes. Alors du coup, bon, évidemment quand vous êtes chanteur, musicien, tout ça, on a un petit peu envie de se dire, bon, vous allez nous faire un petit truc, non?
Oui.
Pour conclure ça, un petit truc. Vous avez préparé ça dans la voiture, en venant, ou dans le bus? Alors qu'est-ce que vous allez nous faire, un petit truc?
Alors, on va vous interpréter, moi à la guitare et Karl à la flûte.
Ça tombe bien.
If Music Be the Food of Love de Henri Purcell.
Si je ne me trompe pas, Benoît, la Maison Illuminée sera à Rouen à Table bientôt.
Oui.
Et cette pièce-là de Purcell figure dans le programme de Rouen à Table.
Où Mélie chantera, en fait.
Oui.
Où Mélie chantera.
Alors, donc on va en attendant vous installer et puis lancer cette petite chanson. Je rappelle, la maison, enfin non, pas la maison illuminée. Oh mon Dieu, quelle horreur. Non, les voix illuminées. Donc voilà, c'est un ensemble qui est un ensemble donc professionnel. Si vous avez l'occasion de voir, d'apercevoir les informations sur cette question, n'hésitez pas à vous y rendre. C'est d'une qualité absolue. Et voilà, donc c'est un bel ensemble qui est né cette année et auquel on souhaite longue vie. Alors, on y va en musique, c'est parti. Merci beaucoup Karl et Mélie, donc les voix illuminées que vous aurez l'occasion d'entendre dans la région à différentes reprises. Merci beaucoup d'être venu par cette chaleur.
Merci à vous.
Et puis, je l'espère, à très bientôt. À lire, à écouter, à partager.
Alors, l'émission Les Pieds dans la Lune part en vacances et comme on ne se revoit pas avant la rentrée de septembre, on a des sorties à vous conseiller, Benoît.
Eh oui. Comme vous le savez, Léon Blum a inventé les congés payés, c'est évidemment pour en profiter le maximum. Alors donc cet été, on a plein de choses possibles à faire dans la région et sur la ville. Notamment, il y a une très très belle exposition qui se tient aujourd'hui et en ce moment et jusqu'au mois d'octobre à la Matmut à Saint-Pierre de Manneville. Cette exposition reprend en fait la vie, enfin comment une bande dessinée s'élabore. Et donc nous sommes allés rencontrer le scénariste Fred Duval et le dessinateur MM, le scénariste qui nous explique comment naît en fait et quelle intention ils avaient à travers cette exposition pour expliquer en fait ce qu'est une bande dessinée et comment à travers une exposition on peut comprendre en fait l'élaboration d'une bande dessinée. Et à la suite, le dessinateur nous expliquera lui comment il a un peu lâché prise en fait par rapport à son œuvre, par rapport à comment il dessine dans cette exposition qui met en avant de manière extraordinairement forte et grande en fait le travail du dessinateur. On écoute tout de suite donc Fred Duval nous expliquer comment on fait une bande dessinée.
Je voulais que les gens repartent de cette exposition avec évidemment des images merveilleuses plein la tête, mais pas que, qu'il y ait une explication, une compréhension qu'une bande dessinée c'est d'abord une écriture, c'est la première étape, on écrit un scénario, c'est mon rôle. Ensuite, il y a des recherches de personnages, des designs. Ça, c'est le rôle de Fred Blanchard. Et après, il y a une mise en scène, un découpage graphique d'après mon découpage écrit, un dessin et une mise en couleur. Et donc, que les choses se font dans cet ordre-là. Ça, c'était vraiment mon ambition parce que je publie depuis 30 ans et souvent, j'entends encore les gens penser que la bande dessinée, c'est quelque chose où un dessinateur dessine un peu tout ce qu'il a par la tête et derrière un scénariste écrit dans des bulles, par exemple. Ce qui, évidemment, est absolument faux. Et je pense qu'il est important, dans notre époque en tout cas, de toujours établir, non pas la priorité du texte, mais l'importance du texte, l'importance de la lecture. Une bande dessinée, c'est un livre. Je pense qu'il est primordial aujourd'hui de défendre le livre en global et donc de rappeler qu'une BD, même si c'est très coloré, très spectaculaire, c'est une écriture.
On se faisait une idée de ce que pourrait être cette exposition, donc on avait d'abord imaginé, nous en tant qu'auteurs, de montrer un maximum de planches. Mais à un moment, on a laissé la main aussi aux gens qui ont conçu l'exposition, qui se sont dit que peut-être c'était une bonne idée que de rythmer aussi le visuel de l'exposition avec des grandes illustrations couleurs extraites des albums, pour vraiment donner une touche colorée qui manquait peut-être dans notre vision de l'exposition. Et donc c'est une idée qui a germé au fur et à mesure de nos réflexions et c'était voilà, une très bonne idée parce que c'est vrai que je n'aurais pas osé en tant qu'illustrateur proposer des grands formats, des très grands formats d'illustration qui ont été du coup été présentés ici. Alors que c'est super de pouvoir voir ça, ça donne vraiment un rythme différent qu'on n'aurait pas envisagé. Voilà, là, on peut s'intéresser au focus sur les planches qui sont quand même d'un format assez réduit et en même temps se retourner et avoir un énorme tirage de très grande qualité d'une couverture qui vous saute au visage. Et donc ça, je pense que c'était la bonne idée.
Explorer l'univers d'une bande dessinée Fred Duval et même Fred Blanchard, c'est visible jusqu'au 4 octobre 2026. L'entrée est gratuite, c'est au centre Malraux d'art de la Matmut, 425 rue du Château. Quand vous voyez le château, c'est que vous êtes arrivé. C'est à Saint-Pierre-de-Varangeville, c'est fermé le lundi et le mardi. Et la ligne de bus pour s'y rendre est la 26. Alors cet été, c'est aussi du cinéma. Nous sommes allés interviewer Jean-Marc Delacruz, qui est le spécialiste en fait des films et des bons films à voir. Donc c'est le programmateur de l'Omnia. Il nous recommande quelques films pour cet été. Et nous avons aussi profité d'interviewer Mathieu Collet, responsable de la bande dessinée, responsable de la librairie, d'une librairie qui nous recommande quelques bandes dessinées à lire pour cet été. Quelques très très belles bandes dessinées. On les écoute.
On va commencer par le gros morceau là de cet été, qui est le film de Christopher Nolan qui s'appelle L'Odyssée, sur l'Odyssée d'Homère, qu'on sortira le 15 juillet, qui est annoncé déjà comme l'événement de l'événement. Voilà, donc on est très dans l'attente du film. Il y aura deux copies en France, je crois, dont une à Paris, en 70 mm. Il faut quand même savoir que Christopher Nolan tourne encore en argentique. On a déjà les préventes qui sont ouvertes. Nous, on a déjà ouvert les préventes là sur le film, ce qui est la première fois qu'on le fait à l'Omnia. Voilà, donc on y croit beaucoup. On espère qu'on va pas se ratatiner, j'ai aussi, parce que bon, on n'a pas vu le film, hein, pour tout vous dire. personne ne l'a vu. En tout cas, l'Odyssée, le 15. Et puis pour continuer, là, on peut citer pour moi un des très grands films qu'on a vu au Festival de Cannes. Pour moi, c'était d'ailleurs c'était la Palme d'Or. C'est un film qui s'appelle Soudain, d'Urusuke Hamaguchi. Et donc le film a quand même réussi à avoir deux prix d'interprétation, et c'est vraiment mérité pour les deux comédiennes, la Virginie Efira et l'actrice japonaise. Elles forment un duo toutes les deux, mais absolument incroyable. C'est un film qui sortira chez nous le 12 août. C'est un film, un grand film assez politique sur comment envisager notre vieillesse, à vrai dire. En l'occurrence, ça se passe dans un EHPAD. Ça pourrait être effrayant pour la majorité de spectateurs, de spectatrices à aller voir ce film. Et pourtant, c'est absolument fabuleux. C'est un film qui donne absolument plein d'espoir. Dans le film, il y a des thérapies. Il y a beaucoup de scènes de thérapie de groupe, et dont une scène de thérapie ou de massage de pied. Ça peut paraître drôle comme ça, mais avec plusieurs personnes. Et le film se transforme en quelque chose de très sexué, de très sexuel, mais sans l'être, et donner de cet espoir, parce que quand on est vieux, c'est vrai que plus personne ne vous touche. On conseille ce film, mais à fond la caisse. La Palme d'Or, qui sort le 19 août. Alors, pour tout vous dire, je trouve que le film est très intéressant, hein. C'est un cinéaste roumain qu'on suit depuis toujours, mais moi je trouve le film un peu manichéen. C'est un film qui se passe dans un petit village norvégien, avec deux clans, d'un côté des wokistes et d'un côté des cathos. Il y a toute une histoire autour des cathos. Enfin, il se passe quelque chose, donc il y a une prise de position, une opposition de clans, mais un film à voir, bien sûr, et ça reste là une Palme d'Or, un film important. Deux autres petites curiosités. Un film qui a complètement divisé, qui va sortir le 26 août, c'est le film d'Arthur Harari qui s'appelle L'Inconnu, avec Léa Seydoux et Neil Schneider. Moi, je suis sorti de cette projection, le film était en compétition officielle, mais complètement dérouté. On était plusieurs, on se demandait vraiment ce qu'on faisait là. Et en même temps, je me suis aperçu que quelques jours après, le film m'a complètement saisi. Je n'arrête pas d'y penser, c'est tiré d'une bande dessinée. Je suis allé le revoir, à vrai dire. Je l'ai revu une deuxième fois. Et là, ça a été vraiment, il s'est passé quelque chose d'absolument dingue. Voilà, il y a une vraie curiosité. Et puis, on peut juste dire quelque chose sur un film, mais on en reparlera, je crois, au mois de septembre. On en reparlera vraiment dans ton émission. Et c'est un film qui s'appelle Notre Salut, d'Emmanuel Mar. Voilà, j'en dis pas plus. C'est un film qui se passe sous Vichy, le gouvernement Vichy. Mais dit comme ça, ça pourrait être un film d'époque, un peu poussiéreux, et c'est un film d'une modernité, mais qui fait écho sur aujourd'hui, et on en reparlera avec beaucoup de plaisir. Et on prépare aussi une avant-première qui est calée, qui sera le vendredi 11 septembre, voilà, à 19h30, en présence du réalisateur et certainement Swan Arlo.
J'ai trois sélections particulièrement à cœur. La première, c'est Cochon. Grosse BD publiée chez Dargaud en histoire complète sur l'abbé Cochon, celui qui a instruit et condamné Jeanne d'Arc. Donc à Rouen, ça marche très très fort. La BD est tout en aquarelle avec un scénario vraiment au cordeau, des dialogues très bien ciselés. L'album est magnifique, avec une imitation un peu cuir et un vernis à chaud or sur la couverture. Bref, c'est non pas de l'histoire avec un grand H, mais c'est mené plutôt comme un thriller judiciaire. C'est fantastique, qu'on aime ou pas l'histoire, on se laisse embarquer par cette super BD. Donc premier choix. Deuxième choix, une BD qui est là depuis le mois de janvier, mais qui continue à très bien marcher dans une toute nouvelle maison d'édition qui s'appelle Morgan. La BD s'appelle Terre ou Lune de Jade Kou. Là, on est sur un dessin un peu plus asiatique, inspiration Miyazaki, même l'intérieur. Alors, je ne peux pas tout dévoiler parce qu'il y a des grandes surprises à l'intérieur de l'album. Mais ça commence assez mal par un jeune garçon qui s'auto-accuse de la mort de son père et donc de sa mère après, et qui se retrouve orphelin. Quelques années passent et son copain vient le rechercher pour retourner au village natal qui lui ramène plein de souvenirs à l'intérieur de soi, et voilà, dans un club d'ornithologie. Et quand il va faire des rencontres avec des personnes du village, ils vont dire « Ah, vos parents étaient comme ci, comme ça », et lui, il n'a pas du tout cette description-là de son père. Donc il va mener une enquête sur la véritable histoire de ses parents. Et c'est d'une poésie, de quelque chose un peu décalé, un peu fantastique, c'est très très bon. Troisième choix, on va partir dans la science-fiction pour changer. Je propose Métropolia de Fred Duval et Igor Hamling chez Dargo. L'avantage, c'est que c'est des histoires, des enquêtes policières en histoire complète à chaque album. Donc il y a deux enquêtes parues. On se retrouve dans le Berlin de 2099. On va suivre un détective privé mandaté par une société privée dans le but d'enquêter. Alors dans le premier, il est à la recherche d'une tueuse. Il va découvrir beaucoup de cadavres. Dans le deuxième, il enquête sur un chantier et il va découvrir un charnier. Passionnant.
Et puis, si vous n'êtes pas rassasié, vous avez encore plein d'opportunités l'été. Évidemment, vous avez ce qu'on appelle, elle aussi, un anniversaire, c'est 20 ans, c'est Lire à la plage. Donc, dans 13 plages de Seine-Maritime, Criel-sur-Mer, Étretat, Fécamp, Le Havre, etc. Vous pouvez donc tous les jours, de 11h à 19h, vous